Voilà, bonsoir et bienvenue à vous toutes et à vous tous. La double appellation s'impose ce soir spécialement. Voilà, bienvenue à vous et au titre de président du Centre Sèvres, je joins celui de responsable des éditions aux facultés jésuites de Paris, éditions dans lesquelles est paru le livre qui nous retient ce soir. Je me réjouis de cette rencontre, je me réjouis de cette publication du livre d'Yves Simons, « Hommes et femmes, de la Genèse à l'Apocalypse », avec les textes, des textes et des interprétations. Yves Simons est bien connu dans cette maison où il enseigne l'Écriture sainte et il enseigne aussi spécialement l'Évangile selon saint Jean à l'Institut biblique pontifical à Rome. Ces publications sont nombreuses. J'aimerais simplement en citer parmi quelques publications récentes celles qui sont parues dans nos éditions. D'une part, « Croire pour aimer » sur les trois lettres de Jean. Et puis, « Apocalypse de Jean, Apocalypse de Jésus-Christ ». Comme l'on sait, comme l'on le voit, le corpus johannique est spécialement honoré par les travaux d'Yves Simons. Alors le livre dont il est question ce soir est un livre qui croise le souci de l'intelligence des Écritures avec un questionnement anthropologique dont on sait combien il est d'actualité. Pour nous aider, pour nous introduire dans cette lecture ce soir, je suis très heureux d'accueillir Madame Anne-Marie Pelletier, le père Michel Fédoux. Je les remercie vivement d'avoir accepté d'être avec nous ce soir, de nous aider dans la rencontre de ce livre. Madame Anne-Marie Pelletier, qui est enseignante de littérature biblique à l'Institut européen des religions, à l'EPHE, et au Collège des Bernardins, et qui a été tout récemment, il y a quelques mois, je crois bien, titulaire du prix Joseph Ratzinger, qui consacre une œuvre théologique importante. Et puis le père Michel Fédoux à ma droite, qui est professeur de théologie dogmatique et patristique dans cette maison, au Centre Sèvres, qui est engagé dans de nombreuses tâches théologiques, tâches de recherche, d'enseignement et de publication en théologie. Notre soirée va se dérouler de cette manière. Madame Pelletier d'abord et le père Fédoux ensuite interviendront, après quoi nous écouterons le père Simons. Madame Pelletier, je vous laisse la parole.
Merci père. Bonsoir à tous et à toutes. Nous trouvons donc réunis ce soir autour d'un livre qui, avant même d'être ouvert, laisse pressentir l'ampleur de son sujet et du trajet qu'il va parcourir et dans lequel il entraîne son lecteur. Son titre, « Hommes et femmes », soit le tout de ce qui fait l'humain, puis de la Genèse à l'Apocalypse, soit le tout de la révélation biblique l'ampleur que lui donne un lecteur chrétien. Donc, d'entrée de jeu, ce livre pointe une plénitude. Disons plus précisément qu'il suggère qu'il va avoir rapport à la plénitude qui se forme au point de rencontre de l'anthropologique et du théologique, quand est reconnue la manière dont révélation de Dieu et révélation de l'homme s'impliquent mutuellement. Sachant que, ainsi que le rappelait Paul VI dans le discours de clôture du Concile Vatican II, je le cite, « Pour connaître l'homme, il faut connaître Dieu ». Mais, ajoutait-il, pour connaître Dieu, il faut aussi connaître l'homme. Voilà qui explique certainement le sentiment qui habite le lecteur, qui a été le mien en tout cas, en sortant de la lecture de ce livre. Ce sentiment, c'est celui du, je dirais, du cœur dilaté, pour utiliser des mots qui sont ceux de Saint-Benoît dans les dernières phrases du prologue de La Règle, lorsqu'il évoque une sequela Christi, une suite du Christ, qui se fait aisée, jubilante, quand elle est précisément vécue selon ce mode du dilatato cordé. La vérité est que si ce livre est profondément bienfaisant, dilatant donc, c'est parce qu'il résonne des biens de ce que les écritures bibliques désignent par le mot de sagesse. C'est en tout cas la pensée que je voudrais argumenter dans ces quelques minutes. L'idée que la sagesse est le lieu privilégié de l'interrogation et de l'enquête du Père Simons, mais peut-être plus encore qu'elle est en quelque sorte le principe herméneutique de la lecture mutuelle qui nous est proposée de la relation anthropologique homme-femme d'une part et de la révélation biblique, je dirais de la révélation mystique de l'identité de Dieu d'autre part. La sagesse, donc. Le mot et la réalité nous renvoient à un registre bien spécifique de la tradition biblique. On le sait, les Écritures enseignent à travers d'abord ce qui advient à Israël dans sa singularité, à travers l'élection qui, certes, est une singularité exemplaire qui a la vertu de dévoiler les problèmes de toute l'humanité, mais une singularité qui tout de même épaissit la différence entre Israël et les nations. Et puis, à côté de cela, les Écritures enseignent aussi autrement. Là où Israël est au contact de ce qui se vit en tout lieu, en tout temps, à hauteur des questions de la condition humaine, des questions qui sont partagées par tous, ces questions qui, tout en étant modulées, colorées par les divers enracinements culturels, eh bien, manifestent l'unité de l'humanité. C'est sur ce sol commun, partagé donc, qu'a levé en Israël un savoir qui a progressivement débordé le savoir des nations. Touché par la révélation biblique, la sagesse a été révélée en Israël dans le mystère de sa proximité avec Dieu, identifiée à l'intelligibilité la plus secrète du monde et des pensées de Dieu. Et puis, au-delà même de ce qui avait commencé à être perçu dans l'Ancien Testament, elle est révélée dans le Nouveau Testament à travers la personne de Jésus. Puissance de Dieu, sagesse de Dieu, déclare saint Paul, puisque en Jésus se conjoigne de façon définitive le plus humain et le plus divin. Alors, dans ces conditions, on conçoit qu'en s'amarrant à la sagesse, le livre du Père Simons, qui est un livre savant, un livre exigeant, d'une certaine manière un livre un peu réservé, se retrouve comme naturellement relié à nos débats anthropologiques les plus actuels, les plus publics. La différence des sexes, les aléas et les bonheurs de la rencontre de l'autre, l'expérience du désir, le rêve si souvent déçu et en même temps incongédiable de l'unité des cœurs à travers l'union des corps, c'est tout cela qui intéresse la sagesse au sens commun du terme et au sens biblique, qui est en cause dans ces pages, directement et indirectement. Et simultanément, c'est aussi tout cela qui est ici en quelque sorte reconduit à sa source, sans dogmatisme appuyé, sans lourdeur polémique. On apprend ou on réapprend à reconnaître comment ces réalités plongent leurs racines dans l'être même de Dieu, comment elles trouvent leur justesse dans cette mise en perspective et comment elles ont aussi pour enjeu final l'accès au mystère, ou disons un début d'accès au mystère de Dieu. J'ajoute que simultanément, encore, ces pages font expérimenter une vérité ancienne que nous retrouvons aujourd'hui, à savoir que le texte, les Écritures grandissent avec les lectures que l'on en fait. Et c'est ainsi que le texte biblique exposé aux questions de la conjoncture présente, qui peuvent être, nous le savons, parfois très, très offensives, déstabilisantes, eh bien ce texte se met soudain à dire ce que l'on n'avait jamais entendu. Et tout spécialement, à propos de cette question homme-femme, cette relation qui a été vécue pendant des siècles dans nos sociétés chrétiennes à partir de représentations issues du texte biblique, mais si rarement interrogées et encore plus rarement problématisées, en tout cas jusqu'au moment présent. Alors, pour expérimenter un bref instant ces choses, je me propose d'ouvrir le livre, non pas à son début, mais plutôt à son milieu, là où le Père Simon se fixe sur la lecture des premiers chapitres du livre des Proverbes, des 9 premiers chapitres de ce livre, qui culmine sur la prosopopée, c'est-à-dire sur la prise de parole de la sagesse personnifiée. Avec ce texte des Proverbes, nous le savons, nous sommes à l'époque post-exilique, un moment où le mystère de la sagesse se creuse comme jamais, en même temps que se multiplient les méditations sur son identité. Ainsi, au chapitre 8, lorsque la sagesse personnifiée, elle, exhorte aux portes de la cité, désignant à qui veut bien prêter attention à son discours, les voies de la vie bonne, de l'instruction, de la connaissance, qui me trouve, trouve la vie, proclame-t-elle. Et c'est ainsi qu'elle se déclare acquise par Dieu, faite sienne par Dieu au principe de sa voix, nous dit le texte. Puis elle se désigne d'un mot bien énigmatique, en hébreu « amon », si on le vocalise ainsi, qui signifie quelque chose comme « architecte », si on le vocalise autrement « amun », qui signifie quelque chose comme « enfant »,« petite fille »,« chérie », etc. Le sens du mot est difficile à stabiliser, mais je crois que l'énigme fait partie précisément du message. Cette sagesse, elle nous est présentée comme immanente à la création, garante de son ordre, et en même temps ne se confondant pas avec le monde. De même, elle est montrée associée à Dieu, issue de Dieu, et en même temps distincte de Dieu, et encore médiatrice entre l'homme et Dieu. C'est ainsi que dans la partie centrale du chapitre 8, que les analyses du Père Simon mettent en évidence, eh bien, le texte commence avec la mention du tétragramme au verset 21 et un petit peu plus loin, à la fin du passage au verset 31, il se termine avec la mention des Bnei Adam, des fils d'Adam. Mais voilà que cette sagesse aussi s'impose à notre reconnaissance par sa féminité. Ou disons qu'elle devrait s'imposer, car l'exégèse se montre souvent peu sensible à ce trait, et quand elle s'y arrête, c'est pour l'interpréter dans les termes d'un comparatisme un peu étriqué, ou bien sous la forme de considérations sociologiques. Or, la sagesse biblique est féminine. Non seulement lexicalement, c'est vrai que le mot orma en hébreu est féminin, que le mot sophia en grec est féminin, mais au fond, ce pourrait être là un hasard, plus décisivement, la sagesse est féminine par les activités qui la qualifient. Elle est féminine quand elle se révèle pleine de sollicitude, ardemment désireuse de guider les humains sur un chemin qui les fasse vivre. Elle est féminine quand elle est campée en maîtresse de maison qui convoque au festin du chapitre 9 des Proverbes et qui anticipe le festin de la tradition apocalyptique, ou bien encore quand elle fait savoir « j'aime qui m'aime », promettant à ceux qui se feront ses amants de trouver en elle leur délice. Et cette féminité est en affinité assez spontanément avec la création. Car si elle est coextensive au monde, son temps déborde celui du monde. Elle est enfantée avant le monde, nous dit le texte, quand les abîmes n'étaient pas, quand n'étaient pas les sources chargées d'eau, ni les montagnes, ni les collines. Et c'est ainsi qu'elle peut se décrire en quelque sorte présente à la création, et précise-t-elle, faisant ses délices parmi les enfants des hommes. Alors, le texte se garde bien de dire plus, d'une manière qui ramènerait un peu dangereusement au schéma de création qui, ailleurs, associe un dieu masculin, mâle, avec un rôle féminin, une déesse paraître. Mais il introduit dans l'origine, qui est aussi une manière de désigner le terme que l'apocalyptique s'efforce de scruter, il introduit dans l'origine la présence d'un mystère de féminité qui attira d'ailleurs en son temps le père Teilhard de Chardin. Je vous renvoie à ce texte étonnant écrit dans la boue des tranchées en 1918 où le père Teilhard médite le texte des Proverbes et prolonge le discours de la sagesse de ses propres mots, parlant en jeu, le jeu de la sagesse. « Je suis apparu dès l'origine du monde. Dieu m'a répandu dans le multiple initial comme force de condensation et de concentration. C'est moi la face conjonctive des êtres, moi le parfum qui les fait accourir et les entraîne librement, passionnément, sur le chemin de leur unification. Par moi, tout se meut et se coordonne, etc. » Ainsi donc, le texte porte mystérieusement l'affirmation que en Dieu est présente une réalité qui a besoin de se dire au féminin. Et cela au sein même d'une révélation biblique, foncièrement en alerte, nous le savons, contre toute sexualisation du divin, qui est une spécialité des païens et un exercice favori des religions qui entourent Israël. Autrement dit, s'il est bien vrai, cette fois je reviens au mot du père Simons, que le Dieu transcendant, dit-il, dont le nom est barré, transcende les deux genres, masculin et féminin, il le fait, nous dit-il, en les assumant mystérieusement l'un et l'autre. Avec pour effet décisif, de fonder en Dieu même la relation de l'homme et de la femme, de lui donner la grâce d'un mystère qui est en écho avec le mystère même de Dieu. Alors, bien sûr, on ne s'étonnera pas dès lors que dans les premiers chapitres de la Genèse, la différence des sexes soit un enjeu central de la création biblique, et cela originellement, et non pas en un sens second, comme une réalité secondaire, ce qui a pu être argumenté à l'occasion dans la tradition chrétienne, en particulier dans la tradition patristique. Vous voyez, alerter par l'existence en Dieu, oserais-je dire, d'un jeu de masculinité et de féminité. La lecture découvre ainsi qu'il y a une nécessité à la réalité d'une humanité articulée dès son surgissement par la différence des sexes. Dès lors que la création est le geste de l'un, avec un U majuscule, mais un qui, nous dit le Père Simon, est créateur à densité trinitaire. Dès lors que le créateur a cette identité, une humanité à son image se composera plus exactement nécessairement l'unité et duel. Le Dieu communion qui se suscite un vis-à-vis à son image est naturellement créateur de communion. C'est donc dans le projet même de Dieu que la différence se fonde dans ces écritures. Par où on voit d'ailleurs se former la proposition d'une nouvelle interprétation de cette fameuse question de l'image, une humanité faite à l'image et à la ressemblance de Dieu, la question de l'imago Dei qui a été tellement interrogée par la tradition chrétienne dès son départ. Et cette fois, on voit se profiler l'idée d'une image qui se comprend, je dirais, au plus près de la densité existentielle qui caractérise la révélation dans les Écritures bibliques, donc de la vérité charnelle et vivante de l'humanité en son identité de création. Donc une imago qui se rapporte à la vérité d'un être avec ou d'un être pour, apte à l'alliance dans l'acte même de la création et qui s'explicite corporellement dans l'homme et la femme dont parle Genèse 1, 27. Donc loin de toute abstraction. Toute chose que confirme à sa manière, donc autre et consonante, le second texte biblique de création au jardin d'Éden, jardin de la sagesse, comme disait le père Beauchamp. Alors dans l'instant, je me contenterai de relever cette belle justification que le père Simons donne du redoublement, a priori déconcertant, du récit d'origine dans la Bible. Car au fond, si une chose devait se dire d'une manière une, hein, père Beauchamp qui méditait aussi cette réalité, ça devrait bien être le commencement. Et là, comme par une sorte de, alors bon, de, comment faut-il dire, de balbutiement, enfin, ou de bégaiement, hein, si on utilise des termes négatifs, il se trouve que nous avons deux textes de création. Mais dès lors que l'on reconnaît la création comme surgissement, je reprends des mots du père Simons, comme création, comme surgissement d'une simplicité complexe, une simplicité complexe, celle donc d'une humanité qui conjoint le duel et l'un, eh bien, il y a une convenance forte à ce que le récit de cette création se redouble. Sans compter, j'ajoute, le salubre enseignement porté ainsi sur les vertus du pluriel et dont le texte biblique ne se prive pas pour contrecarrer les simplifications hâtives de nos anthropologies tirées de l'Écriture sainte. Alors on comprend aussi que la concentration en cette relation homme-femme des enjeux finalement majeurs, non seulement de la relation à l'autre, mais de la relation à Dieu, puisse ainsi se produire et que le texte biblique se dirige progressivement dans la littérature prophétique, en tout cas à travers le déploiement de la dramatique de l'Alliance. Alors de nouveau, il y avait bien des raisons pour que la révélation du Dieu d'Israël se tienne à distance de cette référence conjugale si profondément marqué de défiguration dans l'expérience de la vie des humains. Et pourtant, c'est bien comme époux d'un peuple épouse que le Dieu d'Israël se révèle au fil d'une histoire tourmentée, passionnée, jalonnée de crises, de chutes, de relèvements. Une histoire que la littérature prophétique, précisément, va conduire jusqu'au dévoilement de son ressort décisif, de son ressort éternel, le vertigineux d'une certaine manière, à savoir l'amour dont Dieu aime le monde et qu'il révèle d'abord dans son lien avec Israël. Par là même aussi, je signale au passage, est mise en lumière la nécessité scripturaire d'un livre comme le Cantique des Cantiques. Là aussi, je dirais par-delà une surprise, plus d'une fois formulée, en présence de ce petit livre qui est vibrant de passion humaine, charnelle, et qui ne s'accorde pas complètement avec une certaine idée de la révélation biblique. Mais comme souvent, les difficultés ou les provocations du texte signalent les points de jaillissement du message le plus essentiel. Et de fait, dans les mots du cantique, s'exprime à la pointe de l'alliance accomplie, la plénitude de la réalité à laquelle donnera accès le Nouveau Testament sur le double versant de la relation mystique et de la relation anthropologique. Et le banquet auquel convie le bien-aimé du cantique, en écho à la table que dresse la sagesse, fait allusion prophétiquement au banquet eucharistique, qui reçoit ainsi d'avance sa signification nuptiale. Je reviens une dernière fois au parcours du Père Simons, en ces trois derniers chapitres, où s'illustre, et bien justement, le tressage du masculin et du féminin dans le Nouveau Testament. Alors, le propos du livre n'est évidemment pas ici celui d'un inventaire exhaustif. Il est bien plutôt de rendre sensible la richesse des figures qui seraient à interroger sous ce rapport. C'est ainsi qu'est convoqué d'abord l'évangile de Luc, évangile de l'Esprit-Saint, et évangile des femmes, nous est-il rappelé, qui manifeste alors éminemment ce tressage dès son ouverture, lorsque le mystère de l'incarnation prend corps dans la vie de couple, Élisabeth et Zacharie, puis Marie et Joseph, qui accueillent l'événement de grâce qui conjoint la volonté du Père et l'obéissance du Fils dans l'Esprit. Dimension féminine de la relation du Père et du Fils, commente le Père Simons. Puis, c'est ensuite l'évangile de Saint Jean qui est convoqué comme témoin de la nuptialité que portent les gestes et les paroles de Jésus depuis Cana jusqu'à la croix, où Marie est engendrée à son identité d'épouse et de mère, et où l'Église naît du côté du Christ, en accomplissant ainsi la figure de Genèse 2, de la naissance de la femme dans Genèse 2. Enfin, est évoquée l'Apocalypse de Jean. Et là, surprise, si j'ose dire encore, car bien loin que la constellation de sens formée autour de la différence masculin et féminin s'épuise en ce qui se nomme accomplissement des Écritures, elle se trouve en fait condensée à l'extrême lorsque sont mentionnées, eh bien en particulier, les noces de l'agneau, ou bien encore lorsque le dernier livre des Écritures donne voix à une Église épouse qui, comme la bien-aimée du Cantique, lance un appel ardent « Viens, Seigneur Jésus ». Ainsi donc, de façon étonnante, l'eschaton, au sein duquel on n'épousera ni ne sera épousé à la manière du temps présent, encore sous le signe de la mort, cet eschaton n'est pas évoqué comme neutralisant la différence que désignent le masculin et le féminin. Dans ce que les Écritures désignent comme ciel nouveau, terre nouvelle, le duel semble subsister. Mais pourrait-il disparaître sans que toute l'économie de la révélation soit mise en question? Voilà quelques éléments de ce que j'ai cru comprendre dans ce grand livre. J'espère que ma lecture ne défigure pas trop le propos du Père Simons. Il la rectifiera là où elle s'écarterait de ce qu'il a voulu dire et de ce que les Écritures entendent et entendent nous dire. J'ajouterai brièvement une double remarque conclusive. D'abord, pour souligner combien le regard total, vous l'avez compris, qui est déployé en ces pages, est tout le contraire d'une totalisation close qui immobiliserait sur des propositions anthropologiques qui n'auraient pas d'autre avenir que leur répétition et d'autres fonctions que d'exclure ce qui, de notre humanité, se formule ou se vit présentement. Ce qui apparaît au contraire, c'est que la parole biblique, en toutes ses questions, comporte des ouvertures qui, de façon remarquable, je crois, ménagent une place possible à des problématiques contemporaines. Donc les Écritures ne sont pas une réserve d'arguments, et encore moins d'arguments massus. Quand on en fait des arguments, c'est généralement massu. Ce n'est pas une réserve de thèses à opposer à d'autres thèses dans nos débats anthropologiques actuels. Mais le texte biblique s'offre en revanche, je crois, comme le lieu, comme un lieu de dialogue possible, d'affinement critique de ce qui se pense et de ce qui se vit aujourd'hui entre hommes et femmes. Seconde remarque. Partant cette fois-ci d'une surprise de lectrice, oserais-je dire dans un premier temps d'une petite gêne. Ces pages sont en effet profondément iréniques, d'un bout à l'autre. Même si le chapitre 3 de la Genèse n'est pas du tout esquivé, la réalité de l'inimitié, de la violence, des perversions de la relation homme-femme est fort peu évoquée, alors qu'elle s'étale copieusement tout au long du récit biblique, comme dans la vie de nos sociétés, évidemment. Alors, c'est vrai, j'en ai été un peu gênée avant de me dire qu'il était finalement essentiellement bienfaisant, pour reprendre l'un de mes premiers mots, qu'une lecture chrétienne des Écritures non pas détourne de la tragédie du mal, mais qu'elle arrache à sa fascination, à sa prétention d'être vérité ultime. Le Père Simons, lecteur des Deux Testaments, y revient en continu. Le monde est bon, comme lecteur des Écritures, bien sûr. Le monde est bon. Le face-à-face de l'homme et de la femme est bon. De création, donc, intrinsèquement. La vie est première et non pas la mort. La douceur, pour utiliser de nouveau un mot cher au Père Beauchamp, la douceur est première et non pas la violence. De sorte que vie et douceur seront aussi dernières, au dire de l'Écriture. je cite le Père Simons. Le bon demeure la référence inentamable. Dieu se préoccupe toujours plus du bon que du mauvais. Et encore, la Bible n'accable personne. Et encore, le mal demeure à jamais second. La sagesse de Dieu consistera toujours à trouver la médiation qui redonne la vie. Et même ce fameux chapitre 3 de la Genèse, dit récit du péché originel, eh bien nous sommes invités à, je vous cite, Père Simons, à ne pas le lire en clé de châtiment. Le péché originel, ça c'est moi qui prolonge, le plus originel dans les Écritures, ce n'est pas le péché dit originel, c'est ce qui le précède. Tout le contraire, donc, de la logique, de celui que la Bible appelle l'accusateur, et qui trouve tant de relais dans notre monde présent. Une note du livre, d'ailleurs, évoque par exemple le livre de Jonathan Little, « Les bienveillantes », qui prétend enfermer tous les hommes dans une commune ignominie. Eh bien, l'intelligence de la Bible ici proposée est le contraire. Elle est le contraire d'un pessimisme sceptique et désespéré, mais un contraire qui est aussi tout autre chose qu'un optimisme. Car lire en clé de bonté, si j'ose dire, c'est lire au risque de la foi qui ose faire crédit à la générosité sans limite qui, je crois, s'apprend auprès de la sagesse biblique. Merci.
Merci beaucoup, Madame Pelletier, pour cet écho fin et suggestif que vous avez donné à votre lecture de livre à travers la diversité des textes rencontrés et jusqu'à cette gêne dépassée en principe de lecture, en invitation en tout cas à une juste intelligence de la Bible. Et je crois que ce rapport que vous montrez de la bonté et de la foi est en effet très, très fondateur et très inspirant. Voilà, nous aurons l'occasion, bien sûr, de revenir sur votre intervention tout à l'heure. Je donne la parole tout de suite à Michel Fédoux.
Merci beaucoup. Je suis très heureux de pouvoir, à mon tour, intervenir sur ce nouveau livre d'Yves Simons. D'abord parce que c'est un livre qui aide vraiment à lire des textes majeurs de l'Écriture, moyennant des analyses toujours très précises, éclairantes, mais aussi et surtout parce que ce livre porte sur un thème tout à fait central, hommes et femmes, et qu'il explore les développements de ce thème d'un bout à l'autre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je ne vais pas revenir sur les analyses mêmes des textes bibliques, sinon pour dire que le lecteur, s'il consent à se laisser guider page après page, se trouve largement récompensé de son effort. Des versets de l'Écriture que l'on croyait connaître prennent souvent des résonances nouvelles. Et surtout, à travers le thème homme-femme, on entre finalement dans une intelligence plus profonde de la Bible en son ensemble. Mais je voudrais plutôt intervenir à partir des disciplines qui me sont plus familières, la patristique et la théologie dogmatique. Je voudrais d'abord rappeler brièvement l'héritage de la tradition des pères de l'Église à propos de la question hommes et femmes, afin de préciser justement comment le livre du Père Simons se situe par rapport à cette tradition ancienne. Et puis j'en viendrai à la question qui m'a principalement retenu à la lecture de l'ouvrage, en quoi cet ouvrage apporte-t-il à notre réflexion théologique sur la question hommes et femmes? Tout d'abord donc, comment situer le livre d'Yves Simmons par rapport aux interprétations dominantes qui ont vu le jour dans le christianisme ancien? On aurait sans doute de bonnes raisons, dans un premier temps au moins, de souligner un certain contraste. Certes, les pères de l'Église ont longuement commenté les récits de la création, et ils se sont donc arrêtés, entre autres, sur les fameux versets de Genèse 1, 26-27, « Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa », ainsi bien sûr que sur le récit de la création de la femme en Genèse 2. Les pères de l'Église ont beaucoup réfléchi, en particulier sur les thèmes de l'image et de la ressemblance à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais pour eux, ce qui était à l'image de Dieu, de façon générale, ce ne pouvait être que la partie supérieure du composé humain, pour dire les choses de façon traditionnelle, c'est-à-dire l'âme ou l'esprit, en tant qu'il est participant de Dieu, qui est lui-même esprit. En d'autres termes, de façon générale, les pères de l'Église n'étaient pas d'abord sensibles à la différence homme-femme ou à la relation homme-femme comme caractéristique de l'être humain créé à l'image de Dieu, mais ils insistaient avant tout sur le fait que l'être humain, qu'il soit homme ou femme, est à l'image de Dieu parce qu'il est doté d'esprit et de raison, parce qu'il est libre, parce qu'il est capable d'aimer, tous attributs qui étaient bien sûr, qui sont d'abord des attributs de Dieu même. Ce que je viens de dire ressort tout à fait, par exemple, du traité de Grégoire de Nice sur la création de l'homme, et il est sans doute hautement révélateur que Augustin, dans son traité sur la Trinité, De Trinitate, lorsqu'il cherche à identifier des analogies pour penser la différence et l'unité en Dieu même, bien Augustin n'invoque jamais la relation homme-femme, mais il fait plutôt appel à des analogies empruntées à la structure de l'esprit humain, comme par exemple la fameuse triade mémoire, intelligence, volonté. Certes, en même temps, les pères de l'Église ne manquent pas d'observer l'usage d'un vocabulaire masculin à propos du verbe de Dieu, au moins en grec, le logos, masculin, en latin c'est neutre, verbum, ou bien l'usage d'un vocabulaire féminin à propos de la sagesse, sophia, sapientia. Mais les pères de l'Église invitent alors à comprendre que ce sont simplement des manières de parler et que le verbe ou la sagesse transcende ces langages. Par exemple, Origène écrit dans son commentaire sur le Cantique des Cantiques, « De même qu'ici, tu ne penseras pas que la sagesse est une femme parce qu'elle paraît appelée d'un nom féminin, ainsi, en ce passage du Cantique non plus, parce que le Verbe de Dieu est dit époux au genre masculin, tu ne dois pas entendre sa main gauche ou sa droite dans un sens corporel, à cause de la déclinaison du genre humain. » À s'en tenir là, donc, on serait surtout porté à souligner le contraste entre la perspective d'Yves Simmons et celle des pères de l'Église, puisque ceci nous donne l'impression d'avoir quelque peu relativisé ou minimisé la portée des énoncés bibliques sur l'homme et la femme. Cependant, ces considérations initiales doivent être aussitôt complétées et dans une large mesure corrigées par d'autres considérations qui ont été trop souvent occultées par les précédentes. J'en retiendrai au moins trois, mais il y en aurait d'autres. Tout d'abord, l'importance que le christianisme des premiers siècles a reconnue au Cantique des Cantiques, précisément. Ce cantique commenté avec ferveur par Origène, par Grégoire de Nice et par d'autres auteurs grecs ou latins, tout au long de l'époque patristique et bien entendu au Moyen-Âge, avec par exemple Saint Bernard ou Guillaume de Saint-Thierry. La tradition chrétienne aurait-elle donné une telle place à l'exégèse du Cantique des Cantiques si elle n'avait pas perçu justement l'importance de la relation homme-femme dans ce qu'elle révèle tout à la fois de l'être humain et de Dieu même? On peut relever en deuxième lieu que malgré la prédominance du langage de l'amour comme agapé dans le Nouveau Testament, Certains pères de l'Église n'ont pas hésité à intégrer dans leur théologie même le langage traditionnel de l'amour humain, celui de l'éros. Grégoire de Nice parle de l'âme en quête de Dieu comme habitée par une disposition amoureuse, éros, à l'égard de celui qui est beau par nature. Et Denis l'Areopagite, un peu plus tard, va même plus loin que Grégoire de Nice, puisqu'il va jusqu'à attribuer à Dieu même cet amour, cet éros, dit-il, à l'égard de l'humanité. Il faut aussi oser dire, écrit-il, que lui-même, la cause de tout, beau et bon, dans la surabondance de sa bonté amoureuse, sort de lui-même par ses providences à l'égard de tous les étangs. Dernier trait à relever, enfin, l'importance que la tradition chrétienne a de plus en plus donnée à la figure de Marie. On n'ignore pas, bien sûr, les dérives auxquelles ont pu conduire, surtout au Moyen-Âge et à l'époque moderne, certaines formes de dévotion mariale. On n'ignore pas non plus les vigoureux griefs de mariolatrie qui ont été formulés par contre-coup au sein du protestantisme, en particulier chez Karl Barth. Mais ces rappels ne portent nullement atteinte à ce qui ressort avec évidence de la tradition chrétienne, à savoir un développement croissant de la prière mariale et de la théologie mariale, développement qui, bien compris, reflète à sa manière le témoignage des Écritures sur Marie, femme, mère et épouse, Marie qui, comme l'écrit Yves Simons, ressaisit en elle le destin d'Israël, de Jérusalem, d'Ève et de l'humanité dans l'Église. Et bien, par les quelques traits que je viens de relever, et il y en aurait d'autres, comme par exemple l'importance donnée à la sagesse dans le christianisme ancien, comme l'ont bien vu des théologiens orthodoxes à l'époque moderne, comme Soloviev ou Bulgakov, par ces quelques traits, on voit que la littérature chrétienne des premiers siècles, en dépit de certaines apparences, ouvre d'elle-même la voie à l'étude que nous propose cet ouvrage. S'il est vrai que, d'un côté, le livre d'Yves Simons déplace, et pour une part corrige, avec raison, des interprétations traditionnelles de l'homme créé à l'image de Dieu qui ne faisaient pas suffisamment droit à la signification de la différence homme-femme et de la relation homme-femme, je crois qu'il faut plus encore souligner que, d'un autre côté, ce livre recueille et prolonge les grandes intuitions du christianisme ancien qui a su faire écho de diverses manières à l'importance de cette relation homme-femme dans les Écritures. Or, par cette voie même, le livre d'Yves Simons apporte, me semble-t-il, de précieuses contributions à notre réflexion théologique. Et je voudrais justement préciser, sur quelques points au moins, je voudrais préciser les fruits que nous pouvons recueillir de cet ouvrage, les fruits que nous pouvons recueillir de l'exégèse biblique qui nous est proposée dans cet ouvrage. Je reviens d'abord sur les récits de la création. Yves Simons écrit en Genèse 1, l'homme et la femme sont un dans leur communion, à l'image comme la ressemblance de Dieu qui est lui-même un et communion. L'énigme vient, en Genèse 1 comme en Genèse 2, de la dualité qui est issue au plan de la création de l'unique créateur. Et un peu plus loin, Yves Simons ajoute, c'est parce qu'il est en lui-même communion que Dieu crée l'un et l'autre, l'homme et la femme, selon Genèse 1. Il crée l'un par l'autre, selon Genèse 2. Cette communion de l'homme et de la femme génère à son tour la communion en tant que source ou fondement de toute société humaine possible. Eh bien, ces lignes très denses disent au mieux l'importance de la relation homme-femme dans la Bible, relation qui est fondatrice de la société humaine et qui l'est parce qu'elle-même se trouve fondée dans le mystère de Dieu. Et plus encore, les lignes que je viens de citer brièvement aident à bien saisir la nature de cette fondation en Dieu même. Comment comprendre cette fondation ? Faut-il, pour comprendre cette fondation en Dieu même, faut-il faire avant tout valoir que la Bible elle-même attribue parfois à Dieu des traits féminins ? Certes, il est légitime de rappeler ce dernier point. Comme on sait, les théologies féministes le font volontiers de nos jours, et Yves Simons, d'ailleurs, ne manque pas de rappeler lui-même le genre féminin de la Roire, l'Esprit de Dieu. Il rappelle les textes prophétiques qui parlent du Seigneur comme d'une mère, comme par exemple Isaïe 49, « Une femme oublie-t-elle son petit enfant ?» Et Yves Simons s'arrête longuement, on l'a dit, sur la figure féminine de la sagesse, la présence immanente de Dieu même dans sa création. Mais Yves Simons est conscient des risques d'anthropomorphisme qui guettent les représentations de Dieu sous des traits féminins, tout autant d'ailleurs que sous des traits masculins. Dieu, en réalité, transcende les deux genres en les assumant l'un et l'autre. Mais surtout, les lignes que j'ai citées il y a un instant me paraissent indiquer une voie plus profonde pour penser la fondation de la relation homme-femme dans le mystère même de Dieu. Yves Simons écrit « C'est parce qu'il est en lui-même communion que Dieu crée l'un et l'autre, l'homme et la femme, selon Genèse 1. » Il y a certes une énigme de la dualité homme-femme en tant que les deux sont créés par un Dieu unique, mais cette énigme même abrite le secret qui sera pleinement dévoilé avec le Nouveau Testament, à savoir la révélation d'un Dieu qui, dans son unicité même, est communion du Père, du Fils, de l'Esprit. Karl Barth avait déjà écrit dans sa dogmatique, je cite, « L'homme, comme Dieu, n'est pas solitaire. Mais comme Dieu est un et qu'il est seul Dieu, l'être humain en tant que tel est un lui aussi et seul de son espèce. Il n'est deux que dans la dualité de son semblable, que dans le couple homme-femme. C'est ainsi, poursuit Barthes, qu'il est l'image et le reflet de Dieu. C'est ainsi qu'il reproduit dans le vis-à-vis avec Dieu et avec son semblable, le vis-à-vis qui existe en Dieu même. » Et je pense que Yves Simons se situe dans la même ligne que Karl Barth. Simplement, dans le passage que j'ai cité il y a un instant, Yves Simons explicite davantage le déploiement trinitaire du vis-à-vis qui est en Dieu, ou plus exactement, le déploiement trinitaire du vis-à-vis qui est constitutif de l'être même de Dieu, tel qu'il se révèle dans le Nouveau Testament. Par là, c'est clair, la portée radicale de ce qui est si audacieusement transmis par les récits de création, être créé à l'image de Dieu comme sa ressemblance, c'est être créé masculin et féminin, parce que la dualité même de l'homme et de la femme, comme leur relation et comme leur communion, reflète le mystère qui sera ultérieurement révélé comme mystère trinitaire, distinction et communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Le livre d'Yves Simons n'apporte pas seulement à la théologie de la création, dans la ligne que je viens de suggérer, il apporte aussi à la théologie de l'histoire du salut. Il faudrait revenir ici, je ne peux pas le faire en détail, sur la lecture qui est proposée de la chute en Genèse 3. Contrairement à tant d'opinions reçues, le texte biblique ne culpabilise ni la femme ni son partenaire, mais dénonce, en dehors d'eux, même si elle passe par eux, les manigances d'un mal qui les dépasse, et cela afin qu'il leur soit fait miséricorde. Il faudrait aussi revenir sur ce qu'on pourrait appeler la dramatique de la relation homme-femme tout au long de l'histoire, telle qu'elle est présentée à travers la postérité d'Adam et Ève dans la Genèse, ou encore à travers le livre d'Osée, où la relation homme-femme devient la métaphore de l'alliance entre le Seigneur et son peuple. Ici, de nouveau, une lecture attentive des textes déjoue le piège d'une interprétation préjudiciable à la femme. Créateur de l'homme et de la femme, Dieu ne peut, écrit Yves Simons, Dieu ne peut en lui-même qu'assumer homme et femme pour dire son amour de l'un et de l'autre. D'ailleurs, si l'histoire dramatique de la faute est symbolisée par l'infidélité de l'épouse, comme on le voit en particulier dans le livre d'Osée, le rôle de la femme se trouve magnifié dans le Cantique des Cantiques. C'est l'amour de l'homme et de la femme qui est ici célébré, un amour autant humain que divin, où se laisse déjà pressentir la révélation néo-testamentaire des noces du Christ avec l'humanité. Quant au Nouveau Testament lui-même, je voudrais souligner sur deux points simplement l'importance de la lecture proposée par Yves Simons. C'est une lecture, tout d'abord, qui me semble de grand prix pour une théologie de l'incarnation. Yves Simons évoque longuement les deux couples sur lesquels s'ouvre l'évangile de Luc, Zacharie et Élisabeth, Joseph et Marie. Il est révélateur que ces couples humains servent d'instance majeure pour introduire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est dans les deux couples ainsi évoqués qu'advient l'inouï. Bien sûr, le parallélisme des récits n'exclut pas des dissymétries. Si Zacharie et Élisabeth donnent au monde Jean, le précurseur, Jésus, lui, est dans sa faiblesse même, dans sa petitesse même, d'une grandeur unique, puisqu'il est engendré par l'Esprit, il est lui-même fils de Dieu. Et comme l'écrit Yves Simons, on ne peut désigner son Père autrement que par une traversée des apparences qui fasse remonter sa naissance au Père, avec un P majuscule, dont toute paternité au ciel et sur terre tire son nom. Mais il demeure qu'on ne peut pas simplement présenter l'incarnation comme le devenir homme du Verbe de Dieu, ou plus exactement, l'évangile de Luc manifeste que ce devenir homme advient au cœur d'une histoire constitutivement marquée par la relation de l'homme et de la femme. Et la suite de l'évangile de Luc confirme d'ailleurs l'importance de cette relation homme-femme depuis la présentation au temple, Siméon et Anne, jusqu'au récit d'apparition aux femmes qui sont les premiers témoins auprès des apôtres. L'autre contribution importante que je voudrais relever et à laquelle j'ai déjà fait un tout petit peu allusion, c'est la contribution du livre à la théologie mariale. Déjà dans sa lecture du Cantique des Cantiques, Yves Simons attire l'attention sur la parole du bien-aimé à la bien-aimée, « Toute toi, belle, ma compagne, de tâches, il n'y en a pas en toi. » Yves Simons rappelle que la liturgie applique ce verset à l'Immaculée Conception de Marie. Je cite Yves Simons, « Le Christ seul peut dire une telle absence de défauts physiques, moraux et spirituels de sa seule mère par une grâce qui vient déjà de son mystère pascal. À la lumière de l'Ancien Testament, c'est ce qu'Adam peut dire d'Ève avant la chute. Le Christ est donc dans ce cas non le second Adam, mais cet Adam accompli qui peut exprimer la totale pureté de celle qui n'a jamais été atteinte par le péché. » La femme en question n'est pas non plus la nouvelle Ève, mais Marie, qui réalise en vérité le dessein créateur sur la femme dès l'origine. C'est seulement au XIXe siècle, nous le savons, que l'Église catholique a promulgué le dogme de l'Immaculée Conception, mais elle y a été en fait conduite par la méditation pluriséculaire des chrétiens sur le mystère du Christ et sur la portée de ce mystère pour la compréhension même de la Mère de Dieu. Eh bien, il me semble que le livre d'Yves Simons contribue pour sa part à éclairer ce dogme. L'Immaculée Conception ne doit pas être seulement, ni même d'abord comprise de façon en quelque sorte négative, comme préservation de la faute à laquelle Adam et Ève ont succombé, mais elle doit être comprise, ce dogme doit être compris comme signifiant l'accomplissement du dessein originel de Dieu sur la femme, dont la création suscitait l'émerveillement de l'homme. L'attention à la mère de Jésus dans l'évangile de Jean prolonge et enrichit encore ce premier rapport à la théologie mariale. D'abord parce que Jésus, lors des noces de Cana, désigne Marie comme femme. Jésus transforme ainsi la première relation constitutive de l'humanité elle-même, à savoir la relation de l'homme qu'il est par rapport à la femme qu'est sa mère. Déjà, se trouve ainsi signifié à travers et par-delà la relation du Fils à sa mère, l'accomplissement de la relation que le Créateur avait voulu dès l'origine, la noce de l'époux et de l'épouse. Mais c'est à l'heure de la croix que cette noce s'accomplit réellement, lorsque Jésus s'adresse à sa mère et aux disciples bien-aimés, « Femme, voici ton fils, vois ta mère ». Au moment même où le Fils de Marie donne sa vie sur la croix, sa mère est pleinement révélée comme l'épouse en qui s'accomplit le dessein créateur. Et d'un autre côté, cette épouse est elle-même instituée comme mère du disciple et donc, à travers celui-ci, comme mère de l'Église et de l'humanité en tant que famille de Dieu. Certes, si la relation de l'homme et de la femme trouve son accomplissement à l'heure de la croix, selon le témoignage de cet évangile de Jean, il faudrait aussi recueillir toutes les harmoniques de cette révélation en suivant Yves Simons dans son commentaire sur la fin de l'Apocalypse. Et on verrait ainsi comment la relation homme-femme, elle-même inspiratrice de toutes les autres relations, à commencer par la relation d'Israël et des nations, doit trouver son aboutissement ultime dans la noce de l'agneau et de l'épouse, telle qu'elle est évoquée à la fin de l'Apocalypse. Mais les quelques points que j'ai relevés suffisent déjà, je l'espère, à suggérer le précieux apport de cet ouvrage à la théologie chrétienne. J'ajouterai un tout dernier mot. L'auteur a bien conscience du fait que la question qu'il aborde, hommes et femmes, donne lieu dans nos sociétés et dans l'Église même à des débats souvent difficiles, à des prises de position passionnées, souvent aussi à de véritables souffrances. Il y fait d'ailleurs discrètement allusion. Tout au début, il indique que les dérives des théories du gender ne doivent pas empêcher de reconnaître l'égalité des genres en droit telle qu'elle ressort de Genèse 1, 26-27. Quoi qu'il en soit, des démentis infligés à travers l'expérience concrète de l'histoire d'Israël. Et puis, tout à fait à la fin du livre, Yves Simons souligne que l'importance donnée par la Bible à la relation homme-femme n'autorise nullement, quand on parle par exemple de l'homosexualité, à manquer de respect vis-à-vis des personnes concernées. Et Yves rappelle plus largement que, je cite, les condamnations hautaines et violentes n'ont jamais été pratiquées par Jésus. On lui saura gré d'apporter ces précisions. Peut-être serait-il par ailleurs intéressant de s'interroger sur la relation homme-femme, non seulement dans nos sociétés d'Europe de l'Ouest, mais dans d'autres traditions culturelles de l'humanité. Trouverait-on, ça et là, des résonances de ce que dit l'ouvrage à partir de la Bible ? Ce n'est pas complètement exclu, si l'on se rappelle par exemple ce que signifiait à l'aube de la civilisation grecque la relation d'Ulysse et de Pénélope dans l'Odyssée. Mais il est vrai que le livre d'Yves Simons porterait surtout à souligner, me semble-t-il, la nouveauté décisive de la révélation biblique au sujet de la relation homme-femme. Quoi qu'il en soit, on ne s'étonnera pas du fait que Simons n'aborde pas ces sujets ou ne les développe pas. Son propos, en effet, n'est pas de donner des réponses immédiates aux problèmes qui se posent dans les sociétés, dans les cultures, dans l'Église même, sur la question de la relation homme-femme. Son propos, par contre, c'est de leur donner un éclairage fondamental à la lumière des Écritures, lu et relu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et plus que tout, me semble-t-il, à la lumière de l'Évangile de Jean, cet évangile dont Origène disait jadis que nul n'en peut saisir le sens s'il ne s'est renversé sur la poitrine de Jésus et s'il n'a reçu de Jésus Marie pour mère. Il me semble qu'on peut vraiment remercier Yves Simons pour ce livre qui n'est pas seulement le résultat de beaucoup de science, mais qui est plus encore le fruit d'une grande intimité avec la parole biblique, méditée avec patience et généreusement partagé pour la joie des lecteurs.
Voilà, merci beaucoup Michel pour ces différentes ouvertures théologiques que tu nous as proposées, qui sont comme autant d'harmoniques depuis les Pères jusqu'à aujourd'hui, qui nous permettent d'entrer encore davantage dans cet ouvrage. La parole est à l'auteur.
Un merci chaleureux à celles et ceux qui, présents à cette table, ont rendu possible cette soirée. Madame Anne-Marie Pelletier, exégète et théologienne reconnue, mais surtout amie depuis 25 ans. Nous remercions aussi Monsieur Jacques Pelletier d'être présent parmi nous. Je remercie évidemment aussi le père Henri Lot, président des facultés jésuites de Paris et directeur des éditions Facultés jésuites de Paris, et le père Michel Fédou, pilier de cette maison et grand ami, qui nous avait déjà livré son point de vue sur des ouvrages précédents, Selon Jean en 2000 et Croire pour aimer, les trois lettres de Jean il y a 2 ans, donc respectivement consacrées à l'Évangile et aux épîtres johanniques. Merci aussi à chacune et chacun d'entre vous qui nous avez rejoints dans cette salle. J'ai reconnu un certain nombre de visages. Vous ne savez pas ce que je dois à tous ces auditeurs de mes cours et de mon enseignement ici. Alors, je suis un peu pris dépourvu parce que je pensais qu'on allait pouvoir donner davantage la parole à l'Assemblée, mais je reprends volontiers la parole en essayant peut-être de ressaisir l'argumentation d'ensemble de l'ouvrage. Quand d'aventure l'on me demande quelle est l'idée force de homme et femme, je réponds volontiers la relation lieu de Dieu. Non pas seulement la relation homme-femme, mais toute relation interpersonnelle dont la relation homme-femme est la référence première et majeure, cette relation est lieu de Dieu. La relation homme-femme dans la Bible est aussi, dès l'origine, à l'abri du péché. Son corollaire est la bonté créatrice à l'œuvre dans sa créature, très bonne, comme dit le texte à la conclusion du 6e jour en Genèse 1:31. Créature masculine et féminine à son image comme sa ressemblance. Genèse 3, avec le serpent herméneute, comme le dit Paul Beauchamp dans une expression géniale à sa manière. Genèse 3, avec le serpent herméneute et la désobéissance, ne viennent qu'après. Cette innocence de l'origine oriente la suite de la lecture au service du lien social si durement mis à l'épreuve à l'heure actuelle. Si le « nous » de Dieu crée masculin et féminin « zahar » ou « nekeva » à son image comme sa ressemblance en Genèse 1:26-27, c'est que Dieu est communion, fondement de communion. Et je remercie à la fois Anne-Marie et Michel d'être revenus là-dessus, parce que c'est vraiment, en effet, le point focal. L'impératif pluriel « faisons l'homme » a été interprété par les pères de l'Église dans un sens trinitaire. J'ai appris cela récemment d'un étudiant du Centre Sèvres. Il avait travaillé sur justement le rapport entre commencement et fin, dès Théophile d'Antioche, évêque en 180, dans ses 3 livres à Autolycus. Je me sens plus à l'aise avec Théophile d'Antioche qu'avec Grégoire de Nice. Cette interprétation fait donc de la relation inaugurale dans l'humanité le lieu de la présence trinitaire selon la foi chrétienne. Je me sens en bonne compagnie avec les auteurs cités, Teilhard, Karl Barth. Et donc l'intuition trinitaire mérite d'être respectée dans une lecture historique et théologique de l'Écriture. Tous mes collègues exégètes ne partageraient pas ce point de vue, mais j'y tiens beaucoup, compte tenu de la complexité des données. Si de l'Adam primordial indifférencié, le Seigneur Dieu Adonai Elohim, deux noms, bâtit la côte qu'il avait prise de l'homme en une femme, Genèse 2, 22. Si donc le Seigneur Dieu fonde la relation entre Ish et Isha, c'est aussi qu'il y est présent, même si dans sa première parole de jubilation, Ish, l'homme, ne nomme pas Dieu. Paul Beauchamp attirait l'attention à ce sujet. Le langage humain, en vérité, dit Dieu sans nécessairement le nommer. À sa manière, toujours, il disait volontiers « Parler homme implique Dieu ». Cette première parole humaine en Genèse 2, 25 gagne à être protégée contre toute signification négative. Et là encore, je prends le risque, mais sans jamais entrer dans la polémique, parce que je crois qu'elle est destructrice et blessante, je ne suis certainement pas appuyé par la majorité de mes collègues exégètes. Cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme, Isha, parce que d'homme, Ish, fut prise celle-ci. À mon humble avis, le silence de la femme n'est pas à mettre au compte d'un mépris de l'homme à son égard, ni encore moins d'un mépris de Dieu. Le « il ne se faisait pas honte » de Genèse 2, 23, cet apax biblique, cette seule et unique fois dans la Bible hébraïque où intervient cette forme ou iphil du verbe en question, « il ne se faisait pas honte » est à comprendre comme « ils ne se mettaient pas en danger de mort mutuellement, de mort spirituelle surtout. » Et donc cette parole empêche de voir la moindre trace de péché dans la première parole humaine, alors que beaucoup pensent que justement, à cet égard, le ver est dans le fruit dès l'origine. S'il est présent dès l'origine, comment l'en extraire au cours de l'histoire jusqu'à la fin? Et je me permets de commenter, je me permets de me citer. Le silence féminin est si plein qu'il apparaît en deçà ou au-delà de toute parole articulée. Il enclôt et déborde la parole. Dans le corpus sapientiel, il faut attendre le cantique des cantiques pour que la femme prenne la parole. Alors, sa parole est chant. Et ce chant est sans fin. Mais dès Genèse 4.1, dès la première parole d'Ève, il ne faudrait pas davantage y lire un mépris de l'homme. Et là encore, que d'interprétations que je trouve tendancieuses. J'ai acquis un homme avec Adonai. Kaniti ish et Adonai, le même verbe qu'on emploie pour la sagesse qui est acquise par le Seigneur dans le texte cité par Anne-Marie en Proverbe 8, 22, 31. Ici, Dieu est nommé, mais il vaut la peine de le souligner. Il serait aussi possible de reprocher à la femme de ne pas faire remonter le don de Dieu à sa source, l'homme, Adam, l'époux en l'occurrence, et beaucoup ne se privent pas d'accuser cet oubli de la part d'Ève en n'en parlant pas. Inventorions plutôt la positivité de ces deux cris initiaux de jubilation à la naissance de la parole humaine, tant chez l'homme que chez la femme. Et j'y tiens beaucoup aussi, si le point de départ est bon, alors même après le péché, la parole de la femme n'est pas infectée. Cet enseignement des premières pages de la Genèse est majeur et révolutionnaire. L'origine est bonne de la bonté surabondante du Dieu créateur. Et je me permets aussi de citer Paul Beauchamp dans une note de l'un et l'autre testament, deux, accomplir les Écritures, qui m'a toujours beaucoup interpellé. L'expression, entre guillemets, « péché originel » a pu donner à penser que le péché occupait la place de l'origine, alors qu'en réalité, l'homme est créé bon et juste. Et comme le soulignait très bien Anne-Marie, à l'origine, il n'y a pas le péché. Ce n'est pas le péché qui est originel, c'est le don, c'est la grâce, c'est la relation. Mais l'expression en question, péché originel, dont on sait qu'elle est relativement tardive, sert à exprimer que c'est exactement sur la relation de l'homme à son origine qu'il prend place, d'où son caractère transmissible. Petite note qui n'a l'air de rien, mais qui suppose toute une vision de la Bible. Mais je relève encore, j'approfondis ces propos déjà très condensés de Beauchamp. Ce n'est point parce que le péché prend place sur la relation de l'homme à son origine que cette origine puisse en être gâtée. La relation originelle entre homme et femme n'en est pas entamée davantage. Le péché, certes, vient se loger aussi près que possible de l'origine, mais sans s'y substituer. Et au fond, le péché vient se loger dans l'éclosion de la liberté quand celle-ci hésite entre le bon et le mauvais. C'est ça la marque du péché originel. Le mal vient mystérieusement de l'extérieur, d'après ce que suggère le symbolisme du serpent, interprété dans le livre de la sagesse comme l'envie du diable, du diabolos, le diviseur. Sagesse 2, 24, au terme d'une première phase du procès entre les impies et les justes. Et donc cette relation tout à fait spécifique au mal aussi permet de ne rien simplifier dans la logique symbolique du texte. C'est une cause externe à la relation humaine et divine qui vient contester l'innocence de Dieu et l'innocence de la créature, homme et femme, en visant sur le même front de création la relation de Dieu à sa créature, la relation de sa créature à Dieu créateur, et la relation de la créature à son autre, de l'homme à la femme, de la femme à l'homme. Quelle est cette cause extérieure à la relation originaire complexe? D'où vient-elle? On ne peut pas l'expliquer parce qu'elle n'est pas explicable. On ne peut pas en rendre compte rationnellement parce qu'elle défie l'intelligibilité. Et c'est Paul, en 2 Thessaloniciens 2,7, qui, à mon humble avis, a trouvé la formule la plus géniale pour en parler. Il parle à ce sujet d'un mystère d'iniquité. Mystère à respecter lui aussi, si l'on veut échapper à la tentation gnostique et ça a été la grande tentation des premiers siècles chrétiens, de vouloir tout comprendre et de Dieu et du mal. Et donc, par rapport à ce mal, ce mystère d'iniquité, il n'y a qu'une attitude possible, et Paul Ricoeur le disait, et ça a été repris en écho par beaucoup d'autres, le siècle dernier et jusqu'à aujourd'hui, face au mal, on ne peut qu'essayer de résister, sans chercher à le comprendre, parce que comprendre contribue à se faire mal. Dans cette optique, jamais la tradition catholique n'acceptera la thèse d'après laquelle le péché rend intrinsèquement perverse cette relation inaugurale. Mais des avis sont très partagés. En tout cas, le Concile de Trente a pris position dans le débat avec Luther sur cette bonté intrinsèque, inentamable de la créature à l'image comme la ressemblance de Dieu. Si le péché rendait intrinsèquement pervers, il n'y aurait plus de conversion possible. Le rapport entre la relation homme-femme et la relation Christ-Église en serait rendu problématique, alors qu'en droit, c'est ce rapport qui fonde le mystère, autrement dit, le sacrement, selon aussi un propos de l'école paulinienne dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 32. Si la relation homme-femme ne reste pas indemne du péché à l'origine, comment pourrait-elle, dans la foi chrétienne, s'appliquer au Christ et à l'Église, comme l'écrit l'auteur de la lettre aux Éphésiens ? Et sauf le respect que je dois à de grands théologiens de cette maison, l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, dans sa réflexion, ne part pas du Christ et de l'Église. Il part du rapport homme-femme. Son point de départ est anthropologique, et c'est à propos de cela qu'il parle de mystère, mysterion, traduit en latin sacramentum. Certes, le texte n'est pas facile, mais nous sommes en bonne compagnie aussi. Madame Pelletier en a traité avec grand art dans le signe de la femme, mais le texte reste discuté, notamment du point de vue écuménique. Et une conférence récente dans ces murs de Madame Elisabeth Parmentier, exégète et théologienne protestante de Strasbourg, l'a bien montré en exprimant sa perplexité devant une relation humaine si lourde d'implications théologiques. Comment cette relation peut-elle prendre un caractère sacramentel ? À la condition, précisément, de lui conserver sa plus grande portée symbolique positive possible dès l'origine. La lecture se poursuit après une traversée de Genèse 3 avec la désobéissance par l'examen de la postérité d'Adam et Ève dans la Genèse avec le temps des patriarches. Et c'est là que, tout en compatissant à la gêne de Anne-Marie Pelletier sur le caractère irénique de mes propos, je crois que quand on va simplement lire ces textes des traditions patriarcales, on y voit les vicissitudes de la relation homme-femme dans le rapport entre le peuple élu en Abraham et les nations païennes à travers les règles de la parenté. C'est aussi une dette à l'égard d'un travail de Paul Beauchamp sur Abraham et Sarai. Alors je suis bref en disant, lisez les textes, ils ne relèvent pas de la littérature édifiante. Les ruses des patriarches surtout, on parle surtout de la ruse de Rebecca, mais elle a été bien précédée par celle d'Abraham et d'Isaac. Les ruses des patriarches n'hésitent pas à recourir à l'inceste, fût-ce en parole, qui met en péril le lien social, comme les études géniales de Lévi-Strauss ont bien montré. Pour toutes les sociétés, finalement, l'interdit de l'inceste est fondateur du lien social. C'est une des questions contestées à l'heure actuelle par un certain nombre de ses propres disciples anthropologues. Mais donc, dans ces textes des traditions patriarcales, de Genèse 12 à 50, une violence, parfois stupéfiante, s'y donne en spectacle, comme dans l'épisode des Sichémites, à propos de l'alliance conjugale conclue entre Dinah et le fils de Hamor, Sichem le Hittite. Allez voir les textes. La bénédiction traverse cette violence, de nouveau, parce qu'elle n'est pas première. Et je conclus ces pages en disant, jamais, alors on accumule, hein, désobéissance à la parole, ruse calquée sur leur prototype dans le serpent tentateur, perversion en tout genre, souvent épinglée du côté masculin, n'attente à la bonté foncière du monde et de l'histoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans l'Écriture sainte. La sagesse prend alors le relais pour souligner l'approfondissement de la relation homme-femme comme lieu de Dieu à la lumière de l'approfondissement du rôle créateur de la sagesse qui s'exprime à la première personne dans les textes post-exiliques de Proverbes 1 à 9. Comment pourrais-je penser que Anne-Marie Pelletier a pu défigurer mes propos ? Je me suis reconnu dans les siens comme dans des termes que je n'aurais pas pu exprimer moi-même. Mais donc, le mystère de l'homme et de la femme est donc souvent est fondé dans le mystère de Dieu, qui se déploie d'abord dans un sens binitaire, comme dit à l'heure actuelle quelqu'un comme Daniel Boyarin, avant de le faire dans un sens proprement trinitaire de la théologie chrétienne, grâce à ce féminin en Dieu, expression belle campesque, comme on dit, n'est-ce pas, de Paul Beauchamp encore, représenté par la sagesse. La sagesse, le féminin en Dieu. S'il le fallait, la femme est réhabilitée par rapport à l'image négative d'une Ève tentatrice qui a fait tant de ravages dans l'imaginaire païen et chrétien. En Proverbe 8, 22, 31, l'humain est exempté du péché grâce à la sagesse qui en prévient et qui en prémunit. Et il vaut mieux toujours prévenir que de devoir guérir. Il est temps de faire place alors à la symbolique nuptiale dans l'alliance entre le Seigneur époux et Israël épouse chez les prophètes par le biais d'un autre texte aussi représentatif causé de 4:25. Texte exemplaire du procès dans l'alliance, genre littéraire souverain de la littérature prophétique et choisi dans ce but pour, en quelque sorte, condenser le message prophétique. L'alliance nouvelle s'exprime par son appui sur la fidélité créatrice de Dieu à son alliance historique. C'est parce qu'il est le Créateur qu'il ne cesse de pardonner. Il ne peut pas faire autrement. Dans toutes les infidélités inévitables de son partenaire humain. Créateur de l'un et de l'autre, Dieu ne peut en lui-même qu'assumer homme et femme pour dire son amour de l'un et de l'autre. Le texte a déjà été cité. C'est au point qu'il cherche alors de toutes les ressources de sa créativité à faire de la relation elle-même le lieu de sa présence. Et donc la place est prête pour réserver au cantique des cantiques son rôle, je synthétise l'essentiel, de signifier l'accomplissement de l'alliance sur le lieu de l'origine, plus belle encore après qu'avant la faute, parce que tel est notre Dieu. Le récit de l'Annonciation dans Luc et les péricopes mariologiques de Jean viennent illustrer la même relation homme-femme comme fondement de l'incarnation et du salut par la croix. La plèvre transpercée de Jésus, la plèvre, on ne sait pas ce que la côte d'Adam signifie en hébreu, mais elle a été traduite la plèvre par la Septante, et c'est cette plèvre-là que l'on retrouve à la croix en Jean 19, 34. La plèvre transpercée de Jésus, d'où jaillit sang et eau, en conformité avec la traduction grecque par pleura de la côte d'Adam en Genèse 2, 22, assure sa qualification à la femme née de son propre sang et de son eau. Que le sang doive être interprété comme le sang eucharistique et l'eau comme l'eau baptismale ne fait aucun doute à la lumière du quatrième évangile. Mais là encore, je me risque à une interprétation qui n'est pas partagée par tous les collègues. Je suis solidaire de la corporation des exégètes. L'Église est ainsi bel et bien fille, épouse et mère du Christ dans sa délicate complexité symbolique et sacramentelle. Et qu'il s'agisse de l'Église, ne doit jamais porter ombrage au fait qu'il s'agit bien ici d'abord de l'accomplissement de l'homme et de la femme selon le dessein créateur et sauveur du Dieu de la Bible. Les dernières pages de l'Apocalypse déploient alors, là encore je fais très bref, son paradoxe. Quel est le paradoxe de l'Apocalypse? Du sein même de cet accomplissement dans le mystère pascal du Christ, du dessein créateur et sauveur de Dieu, le combat spirituel des croyants que nous sommes demeure plus intense que jamais. Les disciples ne sont pas, en effet, au-dessus du Maître. Cet accomplissement se fait dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore, selon Romains 8, 28, 22, par la grâce de la résurrection acquise à jamais. La résurrection accomplissant la création. Création et salut culminent ainsi dans la vision finale de la noce célébrée entre l'agneau et son épouse. Terminée, il y a encore dans l'assemblée des personnes qui ont assisté au cours sur l'Apocalypse qui s'est terminé aujourd'hui, les noces de l'agneau et de l'épouse, ce formidable oxymore stylistique de l'auteur du quatrième évangile que je soupçonne vraiment de plus en plus d'être très très proche de celui de l'auteur des autres recueils du corpus johannique. Cette alliance est pour nous, elle est Dieu avec nous, elle est nous avec Dieu, le nous de Dieu devenu le nous des relations humaines accomplies et transfigurées pour toujours mieux les assumer et les orienter encore. C'est à la condition, et je termine là-dessus, de nous recevoir sans cesse, comme de tout petit du Père, qui consent en suprême pauvreté spirituelle, dit Ignace de Loyola, au refus de son amour créateur de toujours à toujours. Je vous remercie beaucoup.
Voilà, un très grand merci Yves pour ce que tu viens de nous dire. Nous allons pouvoir tout de suite commencer un échange donc avec vous, avec la salle. Voilà, le temps est venu et possible pour des questions. Alors n'hésitez pas à vous manifester. Un micro existe et semble allumé. Si quelqu'un se proposait, c'est très gentil. C'est très gentil à vous. Merci, monsieur.
Oui. Ne faites pas que des clignements de.
Au premier rang, au premier rang, madame.
Je voudrais comprendre. On entend ?
Oui.
Oui. J'ai du mal à comprendre ce que vous avez dit, Yves Simons. Face au mal, on ne peut que résister sans chercher à le comprendre, car le comprendre, c'est se faire mal. Je voudrais un peu plus comprendre ça. Oui, pour moi, comprendre le mal, c'est une de mes questions de toute ma vie.
J'y réponds tout de suite. Nos ancêtres dans la foi, depuis toujours, et même dans le corpus biblique lui-même, sont affrontés à cette question du mal. Mais la philosophie et la théologie apprennent que, justement, vouloir expliquer le mal n'aboutit qu'à des impasses. Le mal dépasse la compréhension que nous pouvons en avoir. Et je dis volontiers, dans un cours, certaines personnes sont ici présentes, un cours que je donne aux Bernardins, que j'ai donné ici aussi, dans le livre que j'ai publié sur le corps souffrant, je dis volontiers qu'en effet, vouloir chercher à comprendre, à travers la souffrance physique, morale, spirituelle, le mal contribue à augmenter souvent la souffrance, parce que cette recherche nourrit la culpabilisation, nourrit en quelque sorte l'angoisse, sans finalement aboutir à un résultat satisfaisant. Si bien que je condense évidemment très fort des questions très vastes et délicates, mais c'est un peu le résultat de beaucoup de recherches depuis des siècles et jusqu'au siècle qui nous précède, dans la pensée de Paul Ricoeur, qui s'est beaucoup interrogé à ces questions-là, précisément parce qu'il a été en butte au mal. Mieux que de chercher à comprendre le mal qui risque de nous empêtrer dans toutes sortes d'hypothèses insatisfaisantes et insolubles, il n'y a en cette matière qu'à essayer d'y résister paisiblement, sans alimenter l'angoisse, la culpabilisation et son cortège de souffrances. Voilà ce que je voulais dire.
Il faut reconnaître que c'est l'une des questions les plus difficiles qui soient. Madame.
Si j'ai bien compris, l'esprit est la dimension féminine de la relation du père et du fils. Et alors, comment est-ce que vous expliquez que ce soit l'esprit qui soit mentionné dans l'incarnation du Verbe ? Est-ce que s'agit-il du même esprit ? J'avais entendu un jour le père Spic disant, mais à l'époque, l'Esprit Saint n'était pas nommé, donc... c'était un esprit que la traduction de dire l'esprit lui paraissait pas très juste, mais enfin, là, pour moi, ça me pose une question.
Mm-hmm. Oui, alors je réponds aussi. Le plus important, au moment où je parle de ces questions, ce n'est pas de rendre compte de la manière dont s'opère l'incarnation dans le Nouveau Testament, mais c'est le moment où il s'agit d'affiner le fait que si Dieu créateur crée homme et femme à son image comme sa ressemblance, il doit y avoir du féminin en lui qui honore cette relation. Et déjà dans l'Ancien Testament, le chemin est tracé en ce sens par la sagesse qui est féminine et qui aboutit alors dans un texte fondamental à ce sujet, dans le 7e chapitre du livre de la sagesse, à un esprit qui est également du féminin en hébreu. Ruach est du féminin, Chochma l'est tout autant. Alors, ça pourrait être, comme disait très bien Anne-Marie, disons, un hasard linguistique, mais à partir du moment où une constellation de données vont dans le sens d'une sorte d'équivalence entre sagesse et esprit, au point donc que dans ce fameux chapitre 7 du livre de la sagesse, la sagesse est un esprit saint aux 21 adjectifs, donc une sorte de perfection à la fois trois. Hein. Donc, il y a du féminin en Dieu qui rend compte de ce que ce créateur, qui est pour nous trinitaire dès l'origine, eh bien, crée à son image, comme sa ressemblance, homme et femme. Maintenant, pour répondre plus précisément à la question « Comment se fait-il que ce soit l'Esprit qui soit à l'œuvre, en particulier dans l'Évangile de Luc, dans l'incarnation ?» je crois que ça doit être aussi nuancé. C'est quelqu'un comme Bernard Cesboué, dans ses réflexions, il a enseigné ici la mariologie, et dans ses réflexions théologiques à ce sujet, qui dit « Il faut faire attention, même en maniant l'Esprit, c'est le Dieu créateur qui est à l'œuvre dans l'incarnation. » Et donc, il ne faut pas chercher non plus à se représenter l'irreprésentable. La représentation du féminin en Dieu comme sagesse et esprit, sa représentation la plus adéquate, c'est précisément le couple humain. Là, on n'est pas dans la fantasmagorie, on est dans la chair, on est dans le réel. Si mes collègues
également, même madame,
veulent compléter ce que je viens de dire, peut-être que Anne-Marie pourrait dire quelque chose aussi à ce sujet.
Pas encore. Oui.
Vous voulez parler, Anne-Marie, ou... Alors, merci beaucoup, déjà, vraiment, à tous les trois. Je n'ai peut-être pas bien compris, mais Yves Simons, est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, préciser un petit peu quelque chose par rapport à la relation de l'homme et de la femme, qui n'est pas intrinsèquement pervertie par le péché, mais cependant, on sent qu'il y a une blessure qui est là. Alors, certes, Dieu dit... C'est au serpent que Dieu dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme ». Ce n'est pas à l'homme. Mais l'expérience montre, alors pas forcément dans la relation de couple, mais dans la relation de groupe, voilà, qu'il y a une blessure, qu'il y a un chemin à parcourir sans cesse, une conversion. Est-ce que voilà, vous pourriez dire un peu quelque chose là-dessus ?
Oui, alors blessure ne veut pas dire justement perversion. Qu'il y ait blessure, c'est certain, mais la blessure vient de la désobéissance à la parole. C'est ça le point. Que souligne Genèse 1 et Genèse 2, mais surtout Genèse 2 et 3. Enfin, parce que, et alors, le processus de tentation est tout à fait remarquable. Le tentateur, le serpent, le rusé serpent, joue sur la parole de commandement de Dieu, qui est un don d'abord. Vous pouvez manger de tous les arbres dans le jardin, mais à une condition, un don assorti d'une condition, de l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, sans justification, langage apodictique, vous n'en mangerez pas, car si vous en mangez, vous mourrez. Alors, le serpent pervertit la parole. Mais c'est pas... Et Ève, qui n'existait pas encore, Isha, qui n'existait pas encore au moment où l'Adam indifférencié recevait cet ordre, a bien entendu, elle est la mémoire, elle dit « Non, non, nous pouvons manger de tous les arbres. » Donc, elle rectifie la perversion de la parole. Donc, c'est assez subtil, mais c'est de là que vient la blessure. Et si cette blessure, si la désobéissance est seconde, alors... La conversion est toujours possible et la blessure, si grave fut-elle, guérissable ou au moins pacifiable. Là, Anne-Marie ajoute quelque chose.
Oui, peut-être en étant sensible à la question qui vient d'être posée, et peut-être aussi à cette manière dont vous récusez le mot de perversion. Alors, effectivement, entre homme et femme, notre expérience est que c'est le lieu de l'unité, le lieu peut-être le plus fort de l'unité dans l'expérience humaine, Mais à partir du moment où il y a alors ce que nous appelons le péché du chapitre 3, donc un brouillage de la relation entre l'humanité et Dieu, la première relation qui est ensuite touchée à partir de là, c'est la relation homme-femme, probablement parce que c'est la plus décisive. Et du coup, cette relation qui est ordonnée fondamentalement à l'unité et qui va le rester de toute façon, hein, car c'est son identité et c'est sa vocation fondamentale, cette relation devient par là même le lieu possible de son inverse et de son inverse le plus radical qui s'appelle division. Et à ce moment-là, de fait, la relation homme-femme, j'ose dire, peut devenir un lieu infernal dans un certain nombre de cas. Alors, non pas définitivement et non pas au point de nous faire désespérer de la création et de la création de cette relation en particulier, mais c'est un lieu, je crois, de combat majeur dans l'expérience de l'humanité. C'est un des lieux fondamentaux où se joue la relation finalement de l'un à l'autre et de l'homme à Dieu. C'est Bonhoeffer qui a de belles analyses en commentant justement ce texte de la Genèse et qui dit la femme, c'est elle qui va signifier à l'homme sa limite, le fait qu'il est une créature, qu'il n'est pas tout. Bon, et ça marche dans les deux sens. Hein. Donc la relation homme-femme est dans ce jeu de signification de la limite, donc de la limite qui constitue l'un et l'autre comme créature. Et à partir du moment où la révolte à l'égard de Dieu s'installe, à ce moment-là, cette limite devient d'autant plus insupportable. Et elle va devenir le lieu un lieu de révolte anthropologique. Donc, j'aurais tendance à... je persiste dans la ligne que je disais tout à l'heure, à être sensible aux risques que courent l'homme et la femme dans leur relation mutuelle, dans la condition présente. Ce qui n'est pas pour autant, je le répète, avoir une conception pessimiste et désespérée, mais à assortir cette relation, je dirais, d'une réelle gravité. Ce que vous, évidemment, vous me concédez, mais une gravité qui peut être, dans un certain nombre d'expériences, une gravité tragique.
Je vais poser une question, si vous permettez. Il y a une vingtaine d'années, ou peut-être beaucoup plus, j'étais dans un groupe d'aumônerie, et j'avais eu la question suivante d'un garçon. Jésus est un homme, pourquoi est-ce qu'il aurait pu être une fille? Et je n'avais pas su répondre.
Je ne peux pas très brièvement, enfin en quelques minutes, comme ça, répondre à une question aussi fondamentale. Je crois simplement peut-être ce qui est important de rappeler les implications du concept même d'incarnation. L'incarnation, ce n'est pas simplement une manifestation du divin dans l'histoire ou dans le monde. L'incarnation, c'est Dieu devient un de notre humanité. Et devenir un de notre humanité, c'est nécessairement devenir homme ou femme, juif ou non-juif. Voilà, j'arrête là, je ne vais pas jusqu'à maître esclave. Vous voyez, je fais allusion à la fameuse formule de Paul en Galates 27-28. Voilà, donc je crois que cette question que vous posez, qui est une question tout à fait importante, hein, sur laquelle on pourrait réfléchir assez longuement, il me semble important de la situer d'abord dans le contexte d'une réflexion sur les limites inhérentes à l'incarnation, à la condition. Si Dieu vraiment a pris le risque de devenir l'un d'entre nous, eh bien, il fallait qu'il fût homme ou femme. Voilà. Alors, ce n'est qu'un élément de réponse à votre question. Il y aurait d'autres éléments à apporter.
Oui, une question derrière.
Est-ce que vous ne pensez pas que créer la femme à partir d'une côte d'Adam ne déséquilibre pas la relation homme-femme ?
Bon, non, non, quand je parle longuement, mais j'ai fait allusion à Karl Barth. Si vous lisez les pages extraordinaires hein, que Karl Barth a consacrées au chapitre 1 et 2 de la Genèse, hein, dans sa dogmatique, vous verrez qu'il a une analyse extrêmement, extrêmement profonde, extrêmement juste du récit de création. Et il montre que justement, le récit, enfin, lu de façon attentive, aussi juste que possible, n'autorise pas à faire jouer la dissymétrie dans un sens qui serait préjudiciable à la femme. Je ne peux pas développer, mais je me permets de vous renvoyer à ce texte. Ça s'étale sur une quinzaine de pages. C'est absolument remarquable.
Oui, moi, je me permets de vous renvoyer à une autre lecture sur le sujet qui est celle du père Beauchamp qui a été beaucoup mentionné ce soir. Et qui, je crois, nous livre une analyse d'une finesse tout à fait extraordinaire qui permet de réaliser combien le texte biblique est profond et justement prémuni. Hein, qui sait le lire d'une lecture misogyne ? Mais j'ajoute immédiatement, il n'empêche que... les choses sont formulées d'une façon telle qu'elles donnent évidemment très vite prise à la mécompréhension et en particulier à une exploitation du texte en défaveur des femmes. Hein, tout à fait. Et je dirais la même chose par rapport à ce que disait le père Fédou à l'instant. Pourquoi l'incarnation, eh bien, c'est Jésus dans une condition masculine et pas féminine. J'entends tout à fait ce que vous dites, mais j'ai envie de dire aussi, comme par hasard, c'est un homme au sens vire du terme, avec là aussi la possibilité, en continuant à réfléchir, à questionner, de s'apercevoir que ça ne signifie pas une disqualification du féminin, pas du tout, je crois, hein. Mais il n'empêche que c'est une disposition qui, là aussi, sert d'appui, hein, à toute une tradition de mécompréhension et en tout cas d'interprétation misogyne. Donc nous sommes pris dans ces choses-là. Et de même que je pense que, sans abuser du temps, mais vous citiez tout à l'heure le livre d'Osée, Percy Moons, là aussi nous sommes affrontés à cette ambivalence d'un texte qui met en scène la relation homme-femme pour dire le plus profond de la révélation de Dieu dans sa relation à Israël, et donc avec, dans le chapitre 2 par exemple, un certain nombre de versets superbes que nous avons tous en tête, « Je te fiancerai dans la justice et dans le droit », etc., et le même texte, hein, qui exploite donc cette référence conjugale, a aussi des versets absolument terribles lorsqu'ils expriment le jugement de Dieu sur l'infidélité du peuple à travers la référence à une femme prostituée, etc., et à travers des paroles de châtiment terrifiantes, « je la déshabillerai, je l'exposerai au regard de tous », etc. Donc les textes sont redoutables et en même temps passionnants, parce que c'est là qu'il faut continuer à lire jusqu'au point où la lumière jaillit et où on s'aperçoit que l'écriture traverse toute cette expérience humaine mélangée, éprouvée, je crois défigurée dans un certain nombre de cas, mais justement elle traverse tout cela, hein, en direction de la lumière. Vous demandiez tout à l'heure à propos du mal, ce qui se passe dans les Écritures, eh bien, Dieu fait quelque chose du mal. Il ne nous est pas expliqué, mais il nous est attesté que ce dont nous ne savons rien faire, hein, par excellence, hein, le mal, Dieu, lui, en fait quelque chose. Lui sait en faire quelque chose.
Je veux juste ajouter un petit mot par rapport à la question précédente là, sur la dissymétrie, la femme tirée de la côte d'Adam. Je crois quand on interprète ce texte, il faut aussi se rappeler ce qui est dit aussi, notamment par Paul, rappelle que l'homme naît de la femme. Voilà. Donc il y a la femme tirée de la côte d'Adam, il y a l'homme qui est né de la femme. Il y a plusieurs dissymétries qu'il faut mettre ensemble.
J'en oublié aucune. Alors, une seconde, c'est la dernière question. Hein, donc, nous arrêtons à 9h30.
Pardon, je voulais rebondir sur le côté de bonté. C'est qu'on sort à peine, nous, femmes, et on ne sort pas du tout encore de la domination masculine. Donc, voilà, je voulais faire ça. Je voulais dire aussi pour qu'il s'est fait homme, il s'est fait humain. Et que sociologiquement, peut-être que du temps de Jésus, la parole d'une femme n'aurait pas du tout été entendue. Il y a peut-être aussi une raison. Et vous n'avez pas... souvent, on interprète la côte comme le côté, en disant que dans l'Adam primitif, l'humain primitif, il y avait déjà ce côté masculin et féminin, ce qui fait une égalité déjà complète. Il n'y a pas d'infériorité possible dans l'interprétation. Enfin, voilà. Je ne sais pas, mais ça...
Disons... Je voudrais, en quelque sorte, terminer en disant que cet irénisme que l'on me prête, il vient essentiellement d'une expérience pastorale. En particulier, disons, le mal existe, Dieu s'en sert pour le transformer de l'intérieur en occasion de grâce surabondante. La formule que je cite souvent et qui me semble la plus éclairante à ce sujet, pour la manière dont la sagesse de Dieu se situe par rapport au mal, c'est la parole de Joseph à ses frères en Genèse 50, 20, qui... en quelque sorte, synthétise non seulement les récits patriarcaux, mais aussi les récits sur l'origine. Le mal que vous aviez dessein de me faire, ne craignez pas. C'est l'expression typique d'un oracle de salut. Donc, ne craignez pas le mal que vous aviez dessein de me faire. Dieu l'a transformé en bien pour sauver un peuple nombreux. Alors, ce que l'expérience m'a appris, c'est que en matière de péché, en matière de traversée de la miséricorde, nous avons été quand même très marqués par la doctrine du péché originel mal comprise, et que cela a fait des dégâts dans les consciences. Et ce dont je suis souvent témoin aussi, c'est des dégâts qu'a pu avoir une certaine manière de présenter le péché, même dans les exercices spirituels de saint Ignace. Si l'on ne souligne pas le point de départ, le principe et fondement d'après lequel l'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu, notre Seigneur, si l'on ne sauvegarde pas le point de départ positif, on s'embarque dans des complications sans fin, au niveau d'une culpabilisation qui peut être morbide et pathogène. Et donc, mon effort porte là-dessus. En réfléchissant aussi, on a reproché à Teilhard de Chardin de ne pas faire une place suffisante au mal. Ben, ce que disait tout à l'heure Madame Pelletier à propos de l'éternel féminin qu'il a écrit dans les tranchées montre bien que toute l'expérience qu'il a vécue dans la compagnie de Jésus et dans l'Église par rapport à une œuvre qu'il a été quand même condamnée, il a été empêché d'enseignement, Teilhard a souffert dans sa chair du mal sous différentes formes. Mais voilà un homme qui a aussi cherché, malgré tout, à sauvegarder la ligne fondamentale d'une révélation de l'amour sur les lieux même où il peut être nié de toutes les manières possibles et imaginables. Voilà. Je ne nie absolument pas tout ce que le péché peut avoir comme conséquence désastreuse. J'essaye de, comme pour l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, surtout de ranimer l'espérance, d'en faire un livre non de catastrophe, mais d'espérance, ce qui est admis par tous, mais il faut encore essayer de favoriser de toutes ses forces.
Voilà, nous arrivons au terme de cette soirée. Je voudrais vraiment très, très vivement remercier nos deux intervenants, Mme Pelletier, le père Fédoux, vous-même pour votre présence ce soir, et bien sûr le père Simons qui nous a offert et donné ce livre. Merci beaucoup. Trois petits avis pour terminer. Le premier, c'est que cette soirée est enregistrée et vous la trouverez sur le site internet du Centre Sèvres, comme la plupart des conférences qui sont données ici, probablement dès demain soir. Voilà. Donc vous pourrez réécouter cette soirée. Je signale que le livre « Hommes et femmes de la Genèse à l'Apocalypse » est disponible, est en vente. Dans cette salle, s'il y a un petit peu d'embouteillage autour de la table, vous pouvez aussi vous le procurer à l'accueil du centre, de même que d'autres publications du père Simons. Et enfin, troisième avis, vous trouverez quelques urnes à la sortie si vous pouvez participer à quelques frais d'organisation de cette soirée. Merci beaucoup à vous. Bon retour, bonne soirée encore.